Voilà.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la maladie X viendra d'un virus d'origine animale et émergera quelque part sur la planète où le développement économique rapproche les humains de la faune sauvage. La maladie X se propagera rapidement et silencieusement en exploitant les réseaux de voyage et de commerce humain. Elle sera difficile à contenir, il faut s'y préparer. Mais qui a lu ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié début 2018 ? Car la maladie X est bien là, et elle s'appelle Covid-19, et elle était prévisible. Depuis des années, les scientifiques alertent. Les humains ne vivent pas hors sol. En détruisant les forêts, en multipliant les élevages industriels aux portes des mégapoles, en consommant de nouveaux animaux, nous jouons avec le feu. Car les virus et les bactéries adorent se balader, et notre espèce est un formidable vecteur qui se déplace vite et loin. Oui, l'émergence de nouvelles maladies infectieuses et la dégradation de l'environnement sont liées et nous allons vous l'expliquer aujourd'hui avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
L'Organisation mondiale de la santé se dit très inquiète concernant l'évolution de la grippe aviaire qui pourrait provoquer une pandémie d'une même ampleur que la grippe espagnole de 1918.
La pandémie de grippe espagnole aurait causé entre 50 et 100 millions de morts. C'est effectivement l'une des pires pandémies en termes de mortalité de l'histoire.
Le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, serait une mutation du VIS, un virus présent chez certains singes d'Afrique. La contamination s'expliquerait par la consommation de viande de singe, survenue probablement dans les années 40.
Voici l'ennemi juré, ce moustique tigre, qui nous vient d'Asie du Sud-Est et qui pullule dans le Sud. C'est lui qui pourrait bien nous amener un nouveau virus. Après la dengue et le chikungunya, les autorités de santé alertent désormais sur le virus du Zika.
C'est une rivière du Nord Zaïre, un affluent du Congo, qui traverse des forêts denses, la rivière Ebola. En août 1976, un mal étrange frappa les villages de cette région. Atteints subitement de fièvre, prostrés, les malades semblaient se vider de leur sang.
Jamais observée jusque-là, la souche incriminée appartient à la famille des coronavirus et peut provoquer ce que l'on appelle un SRAS, un syndrome respiratoire aigu sévère. Alors peut-on craindre la propagation de cette épidémie à la France ? Peu probable, bien qu'il faille rester vigilant.
Une vigilance qui est aujourd'hui au maximum, car si le nombre de personnes souffrant de maladies infectieuses n'a cessé de diminuer, le nombre d'épidémies, lui, a fortement augmenté. Bonjour Serge Morand.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et au CIRAD, expert en écologie parasitaire, et vous êtes en ligne avec nous depuis Bangkok, en Thaïlande, avec nous aussi par téléphone, comme tous nos invités désormais, Jean-François Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE et à l'IRD et conseiller scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Alors, SIDA, SRAS, Ebola, Zika, coronavirus, toutes ces maladies sont récentes et ce sont toutes ce que l'on appelle des zoonoses. Alors, Jean-François Guégan, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces zoonoses ?
Alors effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup des zoonoses. Donc les zoonoses sont des maladies. Il faut bien faire la différence entre maladie et l'agent qui en est responsable. Donc ce peut être en tant qu'agent un virus, une bactérie, un protozoaire en particulier ou un champignon parasite. Mais tous sont issus des animaux sauvages et des animaux domestiques. C'est ce qu'on appelle des agents dits zoonotiques. Et ils provoquent des infections, des épidémies et des pandémies comme à l'heure actuelle, dans les populations humaines, mais leur origine est animale.
Et comment ça se transmet de l'animal à l'homme, et inversement d'ailleurs, hein ?
Effectivement, là, ça, c'est une très bonne question. Donc, dans un premier temps, ça se transmet par un contact, ce qu'on appelle une exposition, qui peut se faire au travers de la pratique de chasse, au travers, c'est ce qui sera expliqué dans l'émission, au travers du contact avec la faune sauvage ou la faune domestique. Mais il existe aussi des infections humaines. On prend le virus de la rougeole qui a été transmis à des populations de grands singes africains et a pu exterminer certaines populations locales de certaines espèces de ces grands singes en Afrique centrale en particulier.
Voilà, donc ce que je disais en début d'émission, nous ne vivons pas hors sol, mais bien au milieu d'écosystèmes, on le comprend bien à travers cette explication. Le problème, Serge Morand, c'est que des maladies infectieuses comme celles dont nous venons de parler, ces zoonoses, il y en a de plus en plus.
Oui, tout à fait. Si on regarde les bases de données internationales, notamment déjà celles concernant les maladies infectieuses humaines, qu'elles soient zoonotiques ou non, elles ont augmenté largement depuis les années finalement 1940-1950. Là, on commence à avoir des bonnes données. Alors, elles ont augmenté avec quelque chose d'assez important qu'on pourra rediscuter, c'est que dans les années 60, on s'aperçoit qu'il y a un changement dans la distribution de ces maladies infectieuses. Donc, on peut les étudier notamment par des mécanismes de réseau, c'est-à-dire qu'elles se dispersent de plus en plus et se globalisent de plus en plus. Et c'est vraiment les années 60 qui montrent ça, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'épidémies, on a des épidémies de maladies infectieuses différentes, mais aussi ces maladies infectieuses deviennent de plus en plus globales. L'exemple typique étant avec le dernier coronavirus. Mais c'est exactement la même chose, et on en parle très peu en ce moment, sur toutes les maladies animales. C'est-à-dire que si on regarde les données notamment de l'Organisation de la Santé Animale Mondiale, on observe la même chose, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre d'épidémies de maladies infectieuses chez les animaux, certaines étant zoonotiques ou non. Donc on a un bilan global qui va ensemble de cette augmentation.
Mais dans quelle proportion ?
Alors, dans la proportion, c'est-à-dire qu'on avait une augmentation finalement dans les années 50, on mettait en fait quelques dizaines d'épidémies qui étaient recensées chaque année. Et on arrive dans les années 2000 à 500, 600 épidémies qui sont recensées de maladies infectieuses, quoi. Donc, on augmente vraiment. Alors, il faut reconnaître aussi qu'on a augmenté aussi l'effort de recherche, l'effort de surveillance. Mais même quand on contrôle finalement cet effort de recherche, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une tendance à l'augmentation.
Oui, les trois quarts des maladies nouvelles ou émergentes affectant les humains sont des zoonoses. Alors, on va revenir tout au long de l'émission sur les causes de ces augmentations. Mais l'un des animaux qui est souvent cité comme porteur du virus, c'est un petit mammifère qui est présent sur tous les continents. Il s'agit de la chauve-souris. Bonjour Gaël Maganga.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable de l'unité émergence des maladies virales au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, au Gabon. Alors, vous avez étudié justement de près cette espèce. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi la chauve-souris est un vecteur de virus.
Alors, effectivement, c'est un animal qui est très souvent pointé du doigt du fait de la diversité d'agents pathogènes qu'on peut retrouver chez cette espèce. Alors, la chauve-souris est considéré comme un bon réservoir, c'est-à-dire une espèce animale qui est capable d'héberger de manière permanente un agent pathogène et qui participe en fait à la réplication de cet agent pathogène-là sans pour autant exprimer de signes de maladie ou d'infection. Alors parfois, il arrive que pour certaines maladies, on voit certains symptômes, mais donc c'est l'une des particularités en fait déjà de cette espèce-là, c'est qu'elle a un très bon réservoir. Et il y a des recherches qui ont montré que cet attribut-là pouvait être du fait de son système immunitaire qui serait particulier. C'est-à-dire que la chauve-souris aurait la capacité de maintenir la réplication des agents pathogènes, notamment des virus, à un seuil très bas, donc qui évite à cet animal donc de souffrir en fait de son infection, tout en favorisant en fait la transmission de ces agents infectieux là qu'elle héberge à d'autres espèces qui seraient plus sensibles.
Oui, donc elle transporte les virus, mais les virus ne l'affectent pas. C'est pratique pour la chauve-souris. Et alors après, vous avez compilé plusieurs études qui démontrent que si la chauve-souris est stressée, elle devient plus contagieuse. Alors expliquez-nous ce phénomène qui a été observé en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Australie.
Donc, en Malaisie, par exemple, il avait été démontré que la déforestation combiné à certains facteurs de l'environnement, notamment la sécheresse, les incendies de forêt, avait conduit à des modifications en fait dans les mouvements de population des chauves-souris qui étaient les réservoirs en fait du virus Nipah. Donc là, c'est clairement l'exemple en fait d'une altération de l'environnement qui est à l'origine en fait d'une opportunité de contact en fait, c'est-à-dire que par ces mouvements-là, donc les populations de chauves-souris vont quitter leur habitat naturel pour venir au contact en fait des populations donc de porcs qui sont eux en contact avec les populations humaines et donc favoriser l'explosion de la maladie chez les porcs et par ricochet chez les humains.
Et alors rapidement, vous avez aussi constaté que la chauve-souris, quand elle est stressée, développe plus de virus, et vous l'avez constaté notamment en étudiant des colonies de chauves-souris dans des grottes au Gabon, en quelques mots.
Voilà, effectivement. Alors, ce qu'on a démontré de manière indirecte, c'est que, parce que ça c'est connu, il y a des saisons au cours desquelles les chauves-souris sont particulièrement stressées. Ces saisons, c'est la reproduction, la mise bas et c'est la gestation. Donc, c'est des saisons au cours desquelles le système immunitaire des chauves-souris est particulièrement sollicité et on a une baisse du système immunitaire des défenses de ces animaux-là. Alors, on a remarqué, en fait, dans une étude qui vient d'être acceptée dans Scientific Reports, que en étudiant les chauves-souris qui vivent dans des grottes, on a mis en évidence une prévalence d'infection pour les coronavirus beaucoup plus importante dans des grottes où les chauves-souris subissent un certain nombre de stress. Alors, ce stress, c'est quoi? C'est la pression de chasse. Mais la pression de chasse, en général, qui survient à une période où il y a cette immunodépression-là, donc le système immunitaire des chauves-souris baisse, et donc le stress occasionné par la pression de chasse va entraîner en fait une excrétion beaucoup plus importante des virus. Et cela a été démontré dans d'autres régions, notamment en Asie, en Amérique latine.
Merci Gaël Maganga pour toutes ces explications. Jean-François Guégan, je reviens vers vous parce que vous souhaitiez réagir à cette soudaine exposition médiatique de la chauve-souris. On voit bien que c'est un vecteur de virus important. Gaël Maganga l'a bien démontré, mais vous vous dites attention, ne tirez pas trop sur la chauve-souris.
Oui, exactement. Bon, c'est l'un des groupes animaux les plus étudiés au monde. Vous avez environ et un peu plus de 1200 espèces de chauves-souris, et c'est certainement aujourd'hui le groupe qui focalise toute l'attention des chercheurs et des infectiologues en particulier. Effectivement, que ce soit la chauve-souris, des rongeurs ou des singes, on a tendance aujourd'hui un peu à tirer sur le pianiste ou à tirer sur l'ambulance. Ces organismes sont porteurs avant tout de micro-organismes, et en portant la lumière vers ces organismes, vers ces chauves-souris, vers ces rongeurs, vers ces grands primates en particulier, comme réservoir de micro-organismes, on ne s'intéresse pas aux causes exactes à l'apparition des nouvelles maladies infectieuses émergentes, et les causes sont bien en amont, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui les perturbations et les impacts exercés par les populations humaines sur les écosystèmes, et en particulier les écosystèmes naturels et leur biodiversité, qui sont responsables de ces apparitions de nouvelles infections émergentes. Donc, on a trop tendance à focaliser sur ces organismes. Une des grandes questions à savoir, par exemple, qui souvent nous revient, mais ne faut-il pas finalement faire disparaître cette diversité biologique?
Et la réponse est évidemment non, puisque la chauve-souris joue un rôle important dans les écosystèmes comme les rongeurs et les primates.
Bien entendu, les chauves-souris, et on sait aujourd'hui que les mammifères, les petits mammifères en particulier, contribuent beaucoup plus que les arthropodes à la pollinisation. Vos chauves-souris peuvent être aussi des prédateurs d'insectes, d'arthropodes. On pense à des sauterelles en particulier qui, sans ces prédateurs, pourraient pulluler dans les environnements et devenir les pestes à venir ravager des champs de culture. Donc, leur élimination, comme l'élimination d'un très grand nombre d'animaux de la diversité biologique, constituera bien entendu des conséquences souvent bien plus néfastes par des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de cascade d'effets en réalité.
Voilà, alors pourquoi est-ce que les pandémies comme celles que nous vivons aujourd'hui et qui obligent la moitié de l'humanité à vivre confinée vont augmenter? Quel lien avec la disparition de la biodiversité? Nous en parlons avec nos invités juste après une pause musicale.
The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop!
The coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert, it's a global pandemic we can never take for granted.
Uya moye vene demo, umurane wa corona demo muza nisa mange.
Ila mutu must be alert, it's a matter of life we can never take for granted.
Uya moye vene demo.
Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with tremor is a symptom. It's
say I am through is a simple to
Ngawo bubani Wikumo buta busiga Rejemo vata nalwara Ulago moyo we kwanga La vida ku itale Abasinga bafute
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des liens entre l'augmentation des pandémies comme celle que nous vivons actuellement avec le coronavirus et la dégradation de l'environnement. Avec nos invités, Serge Morand, chercheur au CNRS et au CIRAD, Jean-François Guégan, directeur de recherche à l'INRAE et à l'IRD, et Yann Laurence, directeur du programme Biodiversité et Écosystèmes à l'IDRI, qui nous a rejoint. Bonjour Yann Laurence.
Bonjour Anne-Cécile Bras, bonjour à tous.
Alors, on l'entendait à l'instant, la vitesse de propagation d'un virus est fortement accentuée aujourd'hui par la mondialisation des échanges. Est-ce que pour vous, c'est l'une des causes de l'ampleur des pandémies ?
Oui, bien sûr, ça vient d'être dit et on peut compléter ça en disant que, effectivement, la dégradation de la biodiversité mondiale et en particulier tropicale, qui, elle, est liée en grande partie à la mondialisation, notamment de l'alimentation, est la cause, en fait, de fond de ce problème, puisque en fait la biodiversité contrôle les facteurs d'évolution de ces maladies, avec les prédateurs, avec les comportements de la faune et éventuellement de la flore d'ailleurs. Donc cette dégradation de la biodiversité, elle est liée à la mondialisation. Et plus globalement, par ailleurs, on a bien sûr la mise en contact des humains entre eux et le fait que certains des comportements de ces humains vont avoir des implications qui vont devenir planétaires. Il y en a trois grands types de comportement sur lequel on va revenir. Il y a la consommation d'animaux sauvages, comme ce qui s'est passé en Chine sur le marché de Wuhan. Il y a aussi la consommation de la viande sauvage, dite la viande de brousse, qui est plutôt une viande du pauvre et plutôt en Afrique. Et puis, bien sûr, il y a l'agriculture intensive et singulièrement l'élevage, pour deux raisons. D'une part, parce que l'élevage prend de la place et donc pousse les autres activités à aller dans les forêts. Et deuxièmement, parce que les élevages, en concentrant des animaux de plus en plus nombreux et de plus en plus génétiquement homogènes aux abords des populations, produisent des espèces de réacteurs biologiques qui favorisent la mutation des virus.
Serge Morand, vous partagez ce constat ?
Complètement, complètement. Je voudrais peut-être juste rebondir sur ce que vient de dire Yann Laurence. Finalement, aussi avec la réponse, et ça complétera aussi ce qu'a nous a dit Jean-François Guégan avant, sur la réponse finalement, par rapport aux pandémies, quelles sont les réponses du côté de la santé animale? C'est toujours l'abattage, la biosurveillance, le confinement et après la biosécurité. La biosécurité, finalement, veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à faire des fermes de plus en plus importantes qui vont devenir, en fait, avec des animaux qui vont supporter cette ferme abondante, ce qui veut dire finalement de l'animal qui est génétiquement modifié, qui est génétiquement finalement adapté, qui a besoin en fait de qui ont des fortes performances, donc finalement qui sont tous génétiquement homogènes, donc on crée finalement les problèmes de demain.
Et d'ailleurs, ce que vous voulez dire, c'est que en gros, quand vous parlez de biosécurité, c'est que on va faire des élevages industriels plus importants en termes de d'étendue pour sécuriser davantage ces élevages et limiter la propagation des virus. Mais du coup, on va augmenter l'élevage industriel, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire.
Voilà, généralement, on oublie généralement la deuxième partie de l'histoire Nipah en Malaisie, donc que nous a raconté Gaël en tout début, Gaël Maganga. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelle était la réaction de Singapour face à cet élevage et face à des infections? C'était finalement de dire, il y a un problème de biosécurité, donc, et de biosurveillance de nos cochons qui arrivent pour le marché singapourien. Donc, nous allons créer une joint venture avec une société indonésienne. Ils ont loué des petites îles juste au large de Singapour. Ils ont vidé tout le monde, excepté en fait les gens qui font les élevages, et on peut regarder par les images satellites, hein, vous regardez dessus et vous voyez que ce sont essentiellement des immenses méga-fermes qui sont là.
En gros, ils ont isolé les élevages de cochons.
Voilà, mais évidemment, ces cochons-là, ils demandent de la nourriture. Où on va chercher cette nourriture? Ben, il faut du maïs. Donc, on voit un développement fort du maïs en Asie du Sud-Est. Donc on a une déforestation ou en fait un changement des habitats traditionnels en Thaïlande, notamment et ailleurs, pour faire quoi? Du maïs. Les gens ne mangent pas de maïs, ils ne mangent pas de polenta en Asie du Sud-Est. C'est pour nourrir le cochon qui est en pleine expansion.
Et ça, on l'observe ailleurs dans le monde, Jean-François Guégan. On pense évidemment à la déforestation pour faire des plantations de soja, pour nourrir le bœuf dans le monde entier, notamment en Europe.
C'est exactement le même processus qui est en train de se faire un peu partout aujourd'hui dans le monde, et au détriment des espaces naturels. Et l'homme, lors de ce processus de déforestation, est mis en contact. Donc, il faut le rappeler tout de même, avec des germes microbiens qui, pour une très, très large proportion, c'est 99,9999% d'entre eux, et il y en a des centaines de millions, voire des milliards, ont des effets bénéfiques dans les écosystèmes. Bon, nous pensons aux bactéries que nous avons tous et qui constituent la microflore. Aujourd'hui, on parle du microbiome intestinal. Sans nos bactéries, eh bien, notre physiologie serait bien moindre qu'elle ne l'est avec les bactéries. Les écosystèmes, c'est exactement la même chose. Mais l'homme, en pénétrant dans ces espaces naturels, entre en interaction avec ces micro-organismes qui deviennent les agents pathogènes d'aujourd'hui et certainement de demain aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, avec la déforestation, on va de plus en plus loin dans les forêts et donc on va à la rencontre d'espèces, de bactéries, de virus avec lesquels nous n'étions pas du tout habitués à évoluer, Serge Morand.
Oui, c'est vrai, c'est nouveau. Il faut aussi quand même, d'accord aussi avec Jean-François Guégan, de relativiser aussi quand même le rôle de la faune sauvage en tant que finalement ferment, en tant qu'origine de toutes ces maladies nouvelles infectieuses. Il y a un rôle très important des animaux commensaux, notamment les rats, tous les rongeurs, et des chats et des chiens qui font aussi des tas d'émergences qui ont été relativement récentes dans les années 80. Du rôle finalement aussi de la mondialisation. On a parlé tout à l'heure dans l'enregistrement de Zika, de Chikungunya, tout ça, ça a émergé. Ce sont des virus qui circulaient au sein des primates. Ils sont en fait véhiculés par des vecteurs qui aiment beaucoup les humains, tous les Aedes. Ces vecteurs ont été transportés au niveau mondial et finalement, c'est là que finalement, on arrive à faire des pandémies au niveau mondial. Donc, je voudrais vraiment aussi remettre quand même que le changement, on a un problème finalement avec les animaux en général. On a un problème avec les animaux domestiques, qu'ils soient aussi bien de production que soient aussi bien les animaux de compagnie qui ont augmenté énormément, y compris les nouveaux animaux de compagnie. Et on a un problème avec la faune sauvage. Mais tout ça parce que finalement, ça participe de la marchandisation, et Yann le suggérait un peu, de la marchandisation de cet animal sur le mondial. C'est une globalisation de cette marchandise.
Et puis Yann Laurence, ça pose quand même globalement la question de la consommation de viande, non?
Oui, absolument. La solution pourrait être de repenser les modèles d'élevage et d'encourager un élevage plutôt artisanal et extensif. On peut prendre l'exemple pour les Français que les Français connaissent bien de l'élevage de pâture, des moutons ou des vaches dans le massif central, sur les prairies. Mais il y a les équivalents dans le monde entier. Et ça, c'est possible. Et on va plutôt dans le sens inverse. On va plutôt dans le sens d'industrialiser l'élevage. Et ce que je pense, c'est que on ne pourrait aller vers une politique qui donne son importance aux solutions rustiques, à l'élevage artisanal, que si on réduit la pression sur la demande de viande. On mange trop de viande industrielle, en moyenne, évidemment ça dépend de qui, et c'est surtout le cas pour les classes moyennes et les catégories supérieures. Et tant qu'on adressera au système agro-industriel une telle demande avec une telle quantité, on ne pourra pas sérieusement remettre en question ce modèle. Et quelque part, ça a été jusqu'à maintenant le grand absent de la discussion politique, internationale comme nationale, qui est de mettre la nutrition, la manière dont on s'alimente, au centre de ces politiques environnementales et sanitaires.
Et puis, il peut y avoir des facteurs aggravants qui s'ajoutent à tout ce que l'on vient d'évoquer. Je pense au dérèglement climatique. Bonjour Jean-Michel Clavry.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine de l'université Aix-Marseille. Vous écoutez notre discussion depuis le début, sagement. Et vous dirigez l'Institut de microbiologie de la Méditerranée et du laboratoire information génomique et structurale. Vous avez travaillé avec votre compagne Chantelle Abergel sur le fait que le dérèglement climatique pourrait être à l'origine d'une libération de nouveaux agents pathogènes, notamment à cause de la fonte du pergélisol en Sibérie. Alors, c'est complètement différent des causes dont nous parlions tout à l'heure, mais ça pourrait se surajouter. Alors, expliquez-nous tout d'abord ce qu'est le pergélisol.
Alors oui, on a l'habitude de voir l'évolution donc du climat comme étant quelque chose de dangereux parce que les choses du sud nous arrivent dans le nord à cause du réchauffement climatique. Hein. Mais on découvre aussi maintenant qu'il y a peut-être un danger qui vient du nord vers le sud parce que, en fin de compte, le pergélisol, c'est un sol gelé. C'est un sol qui est à une température inférieure à la température donc, de congélation de l'eau. Et donc, il n'y a pas d'eau liquide. Et donc, c'est un milieu qui permet une stase, en fin de compte, de nombreux organismes, la plupart unicellulaires, des petits microbes, de différents types. Alors, tous les microbes qui sont pris dans cette terre gelée sont très, très bien conservés. Et donc, ce genre de terrain permet la conservation dans une certaine stase de beaucoup de microbes, donc énormément de bactéries dans le sol, énormément, quelquefois, de protozoaires, probablement pas mal de champignons également, des petits champignons microscopiques, et encore plus des virus. Les virus, pourquoi ? Parce que les virus, ils ont deux formes, et à la forme qui est la forme qui se réplique très activement dans les cellules quand nous sommes infectés, parce que ce sont des parasites obligatoires, donc là, ils ont besoin d'un métabolisme actif, d'eau liquide, d'une température au-dessus de la au-dessus de 20 degrés, on va dire, alors que sous l'autre forme, qui est la forme avec laquelle ils se disséminent, sous la forme de particules, ils sont totalement inertes et n'ont besoin d'aucun métabolisme actif pour se conserver. Et ce qu'on a pu découvrir, c'est pas juste une hypothèse, depuis quelques années, c'est que des virus qui peuvent dater jusqu'à maintenant, notre record, c'est 30 à 40 000 ans, donc qui datent de l'extinction de Néandertal, des virus peuvent être ramenés, si vous voulez, à la vie, peuvent être remis en activité après 30 000 à 40 000 ans passés dans des couches relativement profondes de permafrost qui datent de 30 à 40 000 ans.
Alors, de quel type de virus s'agit-il ?
Alors, bien sûr, il y aurait un énorme danger à chercher à réactiver des virus qui seraient dangereux pour les plantes, les animaux ou les hommes. Et donc, nous avons jeté notre dévolu simplement sur des virus capables d'infecter des amibes. Alors, donc, on crée peut-être des pandémies chez les amibes, mais c'est pas très dangereux, parce que bien sûr, il faudrait être complètement irresponsable pour tenter de réactiver, par exemple, des virus comme celui de la variole ou des choses comme ça. Donc, on utilise, si vous voulez, ces virus qui sont très spécifiques d'un type de protozoaire, donc un petit être unicellulaire, mais qui nous ressemble quand même pas mal. Ce sont des cellules à noyaux, comme celles dont nous sommes faits. Et donc, on met en fin de compte en contact différents échantillons de sol, de ce sol gelé, qu'on réchauffe bien sûr, avec les amibes de laboratoire, qui sont leurs hôtes naturels. Et quelquefois, pas toujours bien sûr, eh bien, s'il y a un virus présent dans le sol, on commence à voir que ces amibes se mettent à mourir. Et donc, on sait qu'on a quelque chose d'infectieux pour les amibes dans le sol. Et c'est comme ça qu'on commence à tenter d'isoler et qu'on est arrivé à isoler comme ça deux nouveaux virus qui étaient de l'ordre de 30 à 40 000 ans.
Alors, ce qui est rassurant quand même dans ce que vous décrivez, qui peut paraître effrayant, c'est que, comme vous le dites vous-même, ces virus, il faut les réactiver. Donc, la question, c'est quels sont vraiment les risques de contagion de virus qu'on pourrait trouver dans le pergélisol en dehors de vos recherches à vous ? Est-ce que c'est par le biais que, par exemple, les Russes se mettent à prospecter dans certains endroits de ce pergélisol pour aller chercher des ressources sous terre et donc ils pourraient se trouver exposés à des virus et là, pour le coup, sans grande maîtrise ?
Oui, alors ce que je vous exposais, c'est la preuve de principe où on est donc capable maintenant on démontre qu'il y a des virus qui sont capables effectivement de survivre à 30 à 40 000 ans de congélation dans ces sols. On ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, pourquoi des virus qui, eux, seraient effectivement dangereux pour l'homme, les animaux ou les plantes, ne pourraient pas également avoir le même comportement. Alors, effectivement, le danger
un risque, en fin de compte, c'est l'assemblage d'un danger et d'une exposition, hein, en théorie du risque. C'est-à-dire que s'il y a des requins, il n'y a aucun danger s'il n'y a pas de surfeurs qui surfent à cet endroit-là. Donc, pour qu'il y ait un risque, il faut à la fois qu'il y ait un danger, mais ce danger devient un risque quand il y a une exposition. Or, effectivement, dans le monde arctique d'avant, il y avait extrêmement peu de gens qui y habitaient, il n'y avait pas d'activité industrielle, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas d'hommes. Et donc, les virus qui pouvaient éventuellement être décongelés, parce qu'ils décongèlent chaque été, il y a des espèces de grandes falaises de pergélisol qui chaque année, se fondent, si vous voulez, sur en gros 50 cm de profondeur, également en vertical sur ces falaises. Donc, tout ça est rejeté à la mer et puis va finir par être stérilisé rapidement par l'oxygène et par les UV, et parce qu'il n'y a personne. Mais maintenant, les Russes, avec leur nouveau réacteur nucléaire flottant, sont capables, en fin de compte, de vous amener sur des sites totalement improbables, des villes de travailleurs de 100 000 habitants, du jour au lendemain. Et donc là, on va se mettre à avoir maintenant directement en contact éventuellement un danger qui est effectivement ces virus. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas encore quelques virus qui soient dans le pergélisol et l'hôte potentiel de ces virus qui sont les humains. Donc là, le danger, il ne vient pas directement de la nature, il vient du fait qu'on amène des gens à des endroits où il n'y avait personne avant et en plus, on va faire des gros trous là-dedans parce qu'en fin de compte, on n'y va pas pour rien, on y va pour faire des mines d'argent, il y a du pétrole, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des tas de matériaux très importants pour notamment les composants électroniques. Et donc, on fait des mines. Et la première chose qu'on fait quand on fait une mine, c'est bien sûr de retirer tout ce permafrost sur des profondeurs quelquefois d'un kilomètre. Et donc, on arrive à des dates de l'ordre de millions d'années. Et d'un seul coup, on fait un gros trou et donc on va exposer tous les gens sur place, on va les exposer éventuellement à des dangers microbiologiques qui datent de la même période. Donc c'est ça le danger, si vous voulez, c'est l'exposition instantanée à beaucoup de choses dont on sait maintenant que certaines sont encore infectieuses, immédiatement et donc dans des régions qui pour l'instant n'avaient pas d'humains.
Merci beaucoup, merci Jean-Michel Clavry pour toutes ces explications. C'est un peu apocalyptique, mais ça a le mérite d'exister, vos recherches, et ça permet voilà, d'anticiper ce qui peut se passer dans cette zone du monde. Alors globalement, face à cet afflux de risques de pandémie, comment réagir? Nous en parlons avec nos invités après une petite pause musicale bien méritée. Respirez, vous êtes sur RFI.
Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle pourrait bien être le dernier de la série.
Entro a la red y todo el mundo poteando, que hay una vaina que se está regando. Yo no soy cobarde, pero estoy asustado. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? El coronavirus, virus, el coronavirus, virus, el coronavirus, virus. Esa vaina está matando. El coronavirus, virus, el coronavirus, virus, el coronavirus, virus. Está matando. Cuídate, 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 cuídate. Esa vaina está matando. Cuídate, 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 cuídate. Está matando. Viru, 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 viru. Échate el isol. Viru, 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 viru. Échale el isol. Viru, 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 viru. Entro a la red y todo el mundo poteando, que hay una vaina que se está regando. Yo no soy cobarde, pero estoy asustado. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? En la China, pila de aeropuertos cerrados. Todo el mundo asustado, en la casa trancado. ¿Y qué pasa? Donald Trump está piteando que por culpa de los chinos el virus se está regando. Comen murciélago, comen lagarto. Y esos chinitos, me vi coleando. Comen culebra, perro y gato. Y esos chinitos, me vi coleando. El coronavirus, virus, el coronavirus, virus, el coronavirus, virus. Esa vaina está matando. El coronavirus, virus, el coronavirus, virus, el coronavirus, virus. Está matando. Cuídate, 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 cuídate. Esa vaina está matando. Cuídate, 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 cuídate. Viru, está matando. Viru, 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 viru. Échate el isol. Viru, 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 viru. Échale el isol. A esa comida china. Échale el isol. A esos tenis chinos. Échale el isol. A ese iPhone chino. Échale el isol. Échale el isol. Échale el isol. A esa cadena china. Échale el isol. A esos yolan chinos. Échale el isol. A esa cartera china. Échale el isol.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des liens qui existent entre la pandémie que nous subissons actuellement et la dégradation de notre environnement. Alors nous avons vu que le nombre de maladies infectieuses a été multiplié par 10 depuis les années 40, que la destruction de la biodiversité, l'augmentation de l'élevage industriel et la déforestation, entre autres, sont en cause. Alors maintenant, comment réagir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-François Guégan, il y a une approche que l'on observe depuis plusieurs années entre l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et puis l'Organisation mondiale de la santé animale qui s'appelle One Health, un monde, une santé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette approche qui peut-être peut nous rassurer un petit peu sur le fait qu'il y a des solutions qui existent ?
L'approche One Health naît tout d'abord d'un constat qui a été donné par Serge Morand, qui est que 62 à 65% des agents infectieux et parasitaires humains ont une origine dite zoonotique, c'est-à-dire animale, domestique ou d'élevage. Et dès lors, cela va exiger beaucoup plus de collaboration entre les sciences médicales, vétérinaires, travaillant sur ces sujets-là, et les sciences infectiologiques humaines, donc travaillant chez l'homme, parce que l'origine de l'un et des maux et des infections humaines est causée par des agents infectieux ou parasitaires animaux. Donc les sciences vétérinaires se rapprochent de l'infectiologie humaine. Donc ça, c'est la naissance du concept One Health. Mais il existe bien d'autres concepts, notamment le concept EcoHealth pour lequel on milite aussi beaucoup, qui, lui, incorpore beaucoup plus la dimension environnementale, les aspects changement climatique, mais aussi l'érosion des sols, la perte de diversité biologique, les liens qu'il faut faire aujourd'hui avec les sociétés humaines à travers des participations communautaires à la compréhension de ces émergences, de façon à ce qu'ils évitent les expositions à ces dangers, on en revient. Et donc, vous avez une explosion de concepts aujourd'hui, et chacun tente de tous, d'ailleurs, de montrer qu'on a absolument besoin aujourd'hui de multidisciplinarité, de transdisciplinarité, c'est-à-dire apprendre les uns des autres, et dans lequel les domaines des sciences humaines et sociales, bien entendu, de l'économie, mais aussi de la politique, on en a discuté auparavant donc avec Yann, sont extrêmement importants pour trouver des solutions aux problèmes engendrés aujourd'hui.
Oui, Serge Morand, c'est vrai que tout est lié, on l'a bien compris en vous écoutant dans cette émission. On a l'impression que souvent la solution, c'est l'abattage, par exemple, de cheptels d'animaux, mais on remet pas trop en cause la place de l'humain et ses comportements. Pourtant, vous, ça fait des années que vous alertez là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise va changer quelque chose? Est-ce que ça va peut-être créer un sursaut, une prise de conscience?
Alors c'est vrai que j'étais plutôt très pessimiste en fin d'année dernière. J'en devenais presque collapsologue. Et finalement, cette crise sanitaire et surtout la réaction incroyable qu'il y a pu avoir. Donc j'ai la chance, alors je suis parti en Asie du Sud-Est parce que c'était l'occasion finalement de mettre en pratique ces approches de terrain. Notamment parce que l'Asie du Sud-Est et toute l'Asie, c'est un endroit très peuplé, mais avec une forte biodiversité en danger, une forte diversité culturelle en danger avec le nombre de langues qui disparaît, une forte diversité bioculturelle aussi en danger et une terre d'émergence de maladies infectieuses. Donc là, j'étais là-bas. Pourquoi ? C'était pas forcément pour avoir une démarche, je dirais, de développement, parce que je pense qu'ils nous attendent pas forcément, mais pour travailler finalement avec les administrations locales, qui soient aussi bien les administrations, les hôpitaux que les dispensaires, les communautés, et aussi bien nationales avec le ministère de la Santé, les domestiques, pour finalement commencer à travailler avec les gens, mieux comprendre comment en fait ces personnes-là prennent en compte le changement global. Ils le prennent rapidement. On voit d'un seul coup que finalement les populations rurales, y compris finalement une partie des populations urbaines, ont totalement intégré qu'il y a un problème. Ils sont connectés, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe quand il y a des maladies infectieuses. Ils vont changer aussi leur rapport de production en regardant les cours. Ils sont connectés, ils le savent, quoi. Donc c'était plutôt intéressant finalement de pouvoir se mettre là-bas et de voir que les gens aussi sont capables d'anticiper. Ils voient très bien qu'il y a des problèmes importants avec le changement climatique. notamment avec la variabilité climatique, le régime du mousson. Comme disait, entend même mes grands-parents, il y a plus de saison, et c'est vrai, il y a plus de saison aussi en Asie du Sud-Est. Donc, comment on va s'adapter?
Mais pour revenir aux leçons de cette crise.
Les leçons de la crise, je pense que oui, on peut réagir. On peut réagir relativement facilement, y compris en Europe. Pourquoi? D'abord, pourquoi? Parce que finalement, on a une nouvelle commission européenne qui s'est mise en place et qui nous dit on veut un Green Deal. Eh bien, on dit deal, mais on dit vraiment green. Et green, ça veut dire qu'on dit, Yann, on met l'agriculture au centre. Et deuxièmement, on a la PAC. Il y a l'argent. Il y a l'argent de la PAC.
La politique agricole commune.
Voilà, et c'est le moment de changer justement cette PAC, c'est-à-dire de ne plus subventionner la production, d'ailleurs qui n'arrive même pas à rendre nos paysans heureux, puisqu'ils sont tous endettés, ils n'arrivent même pas à vivre, mais de subventionner beaucoup plus le service rendu par l'agriculture. Et ça, quand on regarde finalement aussi, ça parle énormément à de nombreux agriculteurs et ça parle énormément à de nombreux citadins, ça parle énormément à la ruralité qu'il faut refaire, c'est ce lien. Donc ça peut se faire, et ça peut se faire finalement en utilisant l'argent. Mais ça suppose quoi? Ça suppose aussi qu'on fasse cadeau aux agriculteurs des endettements qu'ils ont eus. C'est-à-dire qu'on a fait cadeau aux banques les prêts monstrueux qu'ils ont fait en 2008, c'est-à-dire quand on est à la crise, on a fait cadeau, quoi. Là, par contre, c'est pas faire cadeau puisque l'argent est là, mais on doit pouvoir repenser complètement la dette agricole pour redonner l'espoir à nos agriculteurs de remettre ça en forme. Ce qui veut dire qu'il faut démondialiser l'agriculture. Il faut la recentraliser, il faut la recentrer sur les territoires. Nos agriculteurs sont plus heureux, et nos territoires sont plus heureux, la biodiversité sera plus heureuse. Avec nos subventions, on ne concurrencera pas les agricultures au sud en les empêchant de se développer et développer leur propre agriculture. Et en même temps, on évitera la production d'importation énorme, notamment de soja. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'une partie de l'agriculture brésilienne est faite pour nourrir nos animaux au détriment de la nourriture. Alors, ça veut dire aussi repenser les accords de libre-échange. C'est-à-dire, l'agriculture ne peut pas être un libre-échange.
Et alors, Laurence, est-ce que vous croyez au fait qu'il va y avoir une vraie prise de conscience?
Ce qui est sûr, c'est qu'on peut supposer qu'après ce qui nous arrive, quand les dirigeants de cette planète vont se retrouver en face à face et se regarder dans le blanc des yeux, il est probable quand même qu'une bonne partie d'entre eux se disent « Comment on fait pour qu'on recommence jamais ça? Il faudrait arrêter ces bêtises ». Et du coup, on peut espérer qu'un certain nombre de mesures un peu plus musclées sortent de la discussion internationale. Je vois plusieurs voies pour ça. J'espère qu'elles seront toutes suivies. La première, bien sûr, c'est de muscler ce qui se passe au niveau sanitaire, c'est-à-dire en particulier au niveau des alertes, de la détection en matière de maladies épidémiques. Il existe un règlement sanitaire international qui impose de surveiller, de prévenir, de partager, etc., et notamment de prévenir en 24 heures. On a vu, et il y a un article chez vos confrères du Monde qui montre bien que ça n'a pas été respecté en Chine dans le cas présent, et que ça illustre un point faible. C'est une réglementation qui n'est pas, disons, associée à un pouvoir de contrôle et d'engagement d'État très fort. On peut se demander si, au fond, les dirigeants de la planète ne vont pas se dire, un peu comme après Tchernobyl, qui avait suscité un renforcement très, très important des contrôles concernant l'énergie atomique avec la possibilité d'envoyer des inspecteurs sans la volonté des États, acceptés par eux-mêmes dans une convention. On peut se demander si on ne va pas chercher à faire ce genre de choses, à muscler la possibilité de réguler l'alerte sanitaire. Ça, c'est un premier point, j'en sais rien, mais je pense que c'est un premier point. La deuxième chose, ça va être évidemment, on va regarder d'un peu près l'histoire de la consommation d'animaux sauvages. Alors, de ce point de vue, il y a trois choses. D'abord, il existe une convention internationale qui s'appelle la CITES, qui régule le commerce international seulement de la faune et de la flore protégée, notamment protégée pour des raisons environnementales. Donc, vous voyez, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de réguler, on va dire, le trafic domestique à l'intérieur d'un pays, et d'une part, et d'autre part, le trafic d'espèces qui ne sont pas forcément en danger d'extinction, mais qui sont éventuellement dangereuses, on pourrait dire, pour les autres quand on est trop en contact avec elles. On peut imaginer qu'on réfléchisse à une sorte d'extension des compétences de cette convention qui a l'avantage d'être assez bien faite, souple, et quand elle régule quelque chose, ça se passe relativement bien. Ensuite, il va y avoir la question de la régulation des marchés de faune comme celui de Wuhan, le marché humide, le fameux wet market. On sait que la Chine a parlé de les interdire après l'épisode de SRAS et ne l'a pas vraiment fait. Il n'est pas sûr que la prohibition, l'interdiction totale de ce genre de marché soit la meilleure réponse. Parce qu'on sait dans ces questions sanitaires que quand on prohibe et qu'on interdit, se développe à ce moment-là un marché noir. Les gens qui font ça sont notamment des agriculteurs exclus du système d'élevage industriel qui sont reconvertis en élevant de la faune sauvage, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ils ont besoin de cette activité. Donc, si on ferme, on va avoir quelque chose qui va être parallèle et qui sera encore plus difficile de réguler. Et donc, peut-être la solution meilleure serait plutôt de les encadrer, de les réguler. Et là, peut-être de faire la fameuse biosurveillance, biocontrôle, biosécurité dont on parlait avant. Enfin, il y a aussi la question, de la régulation de la viande de brousse, celle des pauvres dont je parlais. Et là, ça a été un peu dit, donc je vais passer vite, mais la meilleure méthode n'est certainement pas non plus de vouloir faire quelque chose de très centralisé et autoritaire, mais plutôt d'envoyer aux avant-postes du contact entre les humains et la faune sauvage des équipes légères, multidisciplinaires, qui soient capables à la fois de surveiller, d'alerter, de soigner, mais aussi de faire passer les messages et de les faire comprendre dans les deux sens entre les populations et les autorités. Enfin, la dernière question, c'est la régulation de la cause de fond de tout ça, c'est-à-dire effectivement cette déforestation et le fait qu'on empiète de plus en plus et de manière accélérée sur les espaces sauvages, on pourrait dire. On peut ajouter à ça qu'il y a, dans la plupart des pays forestiers ou qui ont des écosystèmes, en fait, les textes, les lois sont relativement bien faites. On parlait du Brésil, le code forestier brésilien est strict, sévère et il est bien plus encadrant quelque part que la politique environnementale européenne même. Et donc, la question est plutôt dans la mise en œuvre, dans la police. En fait, c'est un problème de police. C'est-à-dire que celui qui vient empiéter sur la forêt, c'est parfois un problème qui est lié tout simplement à l'application de la réglementation. Et puis enfin, bien sûr, il y a toutes les mesures qu'on peut prendre de politique générale pour arrêter l'expansion des terres. On a notamment une négociation qui était en cours, qui est un peu arrêtée, mais qui va reprendre, d'un cadre mondial qui définit un peu les objectifs de la communauté internationale dans ce domaine, qui s'appelle le cadre mondial, on va appeler ça le cadre mondial de la biodiversité en tout cas, qui devrait être négocié en Chine précisément, donc ça tombe bien. Ce cadre, dans ses premières négociations, est pas mal, il est pas mal constitué. La question va être de lui donner des dents, de lui donner des pouvoirs d'action.
Bien, écoutez, on a bien compris en tout cas à travers vos différentes explications qu'il fallait absolument ne pas séparer l'émergence de ces virus et la dégradation de nos rapports avec la biodiversité. Merci donc à tous d'avoir participé à cette émission. Faut-il s'attendre à d'autres épidémies de l'ampleur de celles que nous traversons aujourd'hui? Je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, mais si on vous a bien suivi, la réponse est oui. Donc il va falloir changer globalement notre façon de fonctionner. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, bien entendu, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres plus que jamais. Et à demain, même planète, même heure. Appel sur l'actualité.